Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Iran et à la victoire d'Hassan Rouhani, reconduit pour un deuxième mandat de 4 ans à la présidence du pays face au conservateur Ebrahim Raisi. Analyse de cette réélection et regard sur les chantiers qui attendent le président iranien dans un contexte international particulièrement tendu et incertain. La visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, grande rivale de l'Iran dans la région, désigne le camp choisi par le locataire de la Maison Blanche. Les sunnites sans la moindre réserve. L'appel de Donald Trump à isoler l'Iran constitue un revirement. La parenthèse Obama semble bel et bien refermée. Regard avec nos invités pour cette édition réalisée en partenariat avec l'IREMO. Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS et auteur de la géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Rouhollah Chassavar, journaliste iranien, fondateur et directeur des Lettres Persanes. Bonjour.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur cette réélection donc de Hassan Rouhani? On évoquait avant l'élection la possibilité d'un deuxième tour. Finalement, il n'en a rien été, Bernard Ourcade.
Oui, parce que finalement, la politique iranienne se résume en deux camps. Un camp, disons, conservateur, pour prendre les mots habituels, qui défendent la République islamique, les institutions, la tradition, les 37 ans de régime largement dominé par le pouvoir du guide suprême, Ali Khamenei, ou Khomeini avant, et qui sont conservateurs, mais pas forcément réactionnaires. Mmh. Et de l'autre côté, des gens qui pensent qu'il faut que l'Iran rentre au 21e siècle, et donc, sans pour autant renier l'identité islamique du pays, essayer d'évoluer et d'ouvrir l'Iran sur l'international. Et cette deuxième composante politique l'a dominée, et il n'y a jamais eu en Iran jusqu'à maintenant d'autres forces alternatives, et donc il était presque logique que les candidats secondaires se retirent et qu'il n'y ait plus que les deux vrais candidats face à face.
Alors, vous évoquiez à l'instant le guide suprême. Juste pour mémoire, Hassan Rouhani n'était pas le candidat du guide suprême. Et pourtant, les choses se sont donc déroulées de manière, ce que vous évoquez, de manière finalement très, très mature politiquement.
La maturité politique des Iraniens est évidente. Mais Rouhani n'était pas opposé au guide. Le guide l'a soutenu quand il a été élu une première fois il y a 4 ans. C'est quelqu'un de très proche du guide. L'ouverture internationale avec les accords sur le nucléaire du 14 juillet 2015 était signé avec l'accord du guide, même si celui-ci n'était pas favorable à une ouverture très grande aux États-Unis. Autrement dit, Hassan Rouhani n'est pas opposé au guide, loin de là. C'est une façon de faire qui est différente de celle de Raisi, mais il n'est pas évident du tout que le guide soit opposé à M. Rouhani.
Rouhollah Chassavar.
D'abord, il faut évoquer que la République islamique a deux facettes, la République et islamique. Mmh. Et la facette républicaine est très importante en Iran, ce dont on ne parle pas assez. Et on voit surtout après la guerre l'Iran et l'Irak avec l'arrivée au pouvoir de d'Ayatollah Khamenei comme guide et puis le président Rafsanjani et puis après le président Khatami, le président Ahmadinejad et aujourd'hui le président Rouhani. À chaque fois qu'on a un président de la République, on voit que les lignes politiques de l'intérieur et plutôt de l'extérieur va vers la ligne du président. Comme on a vu avec Monsieur Rafsanjani, avec Khatami, avec Ahmadinejad, avec Rouhani, on voit que c'est pas forcément le guide suprême qui désigne tout. Pourtant, il a un pouvoir important, mais Monsieur Khamenei est un politicien vraiment intelligent. Il fait partie des fondateurs de la République islamique. Il comprend très bien la partie de républicain. Je dis pas forcément démocratique, mais républicain, la légitimité républicaine dans le régime de la République islamique. Et du coup, il va pas plus loin. Il n'impose pas ses idées, alors que peut-être, moi, je suis convaincu que les idées d'Ayatollah Khamenei par rapport à l'accord nucléaire ou tout la politique internationale est assez opposé du président Rouhani, mais il essaye de garder la distance avec son avis personnel et l'avis de l'establishment diplomatique iranien. Il essaye d'imposer ses idées, mais pas personnellement, mais avec les institutions qu'il détient, c'est-à-dire quand même un parti de pouvoir militaire ou politique en Iran, mais il va pas plus loin.
En tout cas, oui, Bernard Ourcade, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Oui, je crois que c'est très important, république et islamique, et cette dualité entre les deux, et l'intelligence finalement du guide, comme vous le disiez, c'est un homme politique, ce n'est pas un religieux, mais il croit, je pense, en Dieu, il a un turban sur la tête. Mais Ali Khamenei est fondamentalement un homme politique qui connaît les rapports de force, et pour sauver la république islamique, il est prêt à faire des compromis, ce qui est intelligent du point de vue politique.
Alors, les défis et les attentes finalement du peuple iranien par rapport à cette élection et à la reconduction de Hassan Rouhani à la tête du pays, qu'est-ce que l'on peut dire finalement ? Alors, peut-être quelques mots, Rola Chassavar, sur les débats qui animent la société iranienne aujourd'hui. Quels ont été ces débats durant la campagne ?
On peut parler des trois débats télévisés qui ont été regardés par plus ou moins la moitié de la population iranienne, ce qui est énorme. Et c'est-à-dire, si on compte 80 millions d'habitants en Iran, d'après les sondages de l'Institut ISPA, qui est l'institut de sondage assez légitime en Iran, la moitié des Iraniens ont dit qu'ils ont regardé les débats, au moins l'un des trois débats présidentiels. Les deux premières, on était plutôt concentrés et orienté par les candidats conservateurs sur la corruption et l'incapacité du gouvernement pour amélioration du niveau de vie au niveau économique et en attaquant Monsieur Rouhani que vous nous avez promis de tels changements grâce à l'accord nucléaire et finalement on n'a pas vu les fruits de cet accord et c'était là que on a vu un poussé inattendu les deux candidats conservateurs, à savoir Monsieur Raisi et Monsieur Ghalibaf, mais pendant la dernière débat qui était consacré sur les questions économiques, on a vu la génie de débat de Hassan Rouhani, qui est un bon orateur, qui fait de rhétorique assez bien, et il a attaqué sur les sources des problèmes économiques en Iran, à savoir l'ingérence pendant l'époque de Ahmadinejad, que une grande partie des ministres d'Ahmadinejad on était réunis autour de Raisi, un peu Ghalibaf aussi, et puis oui, il a évoqué que les Américains n'ont pas tenu leurs promesses pendant l'accord nucléaire, surtout avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et même un peu pendant Obama aussi. Et en plus, deuxièmement, mais ce qu'il a dit finalement, Rouhani, c'est que si on n'avait pas l'accord, il y avait la guerre. Et c'est ça que les Iraniens ne veulent pas. Et moi, je suis le gardien de la paix en Iran. Avec moi, c'est la paix. Avec Raisi, c'est la guerre. Et il a pu renverser le débat vers des petites questions sur l'économie, la situation, l'inflation et tout ça. Et en plus, il a contrôlé, il a vraiment bien géré l'inflation qui était à 40% aujourd'hui, à 8%, pardon. Mais il a pu renverser le débat sur les questions plus profondes en Iran qui touchent une grande partie des Iraniens.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Les gens étaient pas contents parce que on avait promis l'Eldorado et qu'en quelques minutes, les flots de dollars tomberaient sur l'Iran. Et on sait que d'un côté, comme vous le disiez, les Américains ne sont pas d'accord. Et d'autre côté, en Iran, les structures économiques, le poids des institutions anciennes, les gardiens de la révolution, des grandes fondations qui contrôlent l'économie et ne sont pas prêtes à s'ouvrir, fait que le système est bloqué. Il faudra du temps pour changer. Mais ce qui est intéressant, c'est comme il vient d'être dit, le débat était économique, on n'est pas content. Mais ensuite, dès qu'ils ont vu les questions politiques de fond sur la guerre, la menace de la guerre, même si ça n'y aurait pas eu de guerre physique, mais l'Iran en conflit, les questions de fond politiques sont arrivées. Et je crois que le défi de Rouhani aujourd'hui, il est justement politique. Il a un pouvoir important. La République islamique, on vient de le dire, la République, ça existe. Elle est forte, plus forte que jamais. Il n'a pas été élu à 90%. 90%, ça signifierait une élection de maréchal plus ou moins trafiquée.
Là,
pas
on est sur 57%.
57%. Parce qu'il y a une minorité qui pense que le conservatisme, c'est bon. Non, c'est une réalité politique. Il est fort, calmement fort. Il est donc en position de pouvoir exiger la libération, notamment, de Mousavi et Karoubi, les deux anciens leaders des élections de 2009, qui sont en prison, concrètement, depuis 2009, et le symbole d'une absence d'ouverture. Il pourra aussi imposer que les gardiens de la révolution, les grandes fondations qui ne payent pas d'impôts, rentrent dans le système iranien aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, les grandes fondations refusent d'investir en Iran. Ils ont leur argent à Dubaï ou ailleurs. Ils ne jouent pas le jeu. Et donc, politiquement, ils peuvent prendre le pouvoir. Et c'est la question qui se pose. Je n'ai pas la réponse. Mais de savoir si Rouhani aura le courage, la capacité aussi. La capacité, il l'a, à mon avis. Mais le courage de prendre le pouvoir, sans pour autant éliminer le guide, qui est un élément essentiel du pouvoir, mais d'affirmer ses positions clairement. Le dernier débat en Iran montrait qu'il allait dans ce sens-là. Il a été très violent et très clair en disant « Si vous voulez que l'économie reparte, il faut, messieurs et mesdames, que vous changiez votre politique fondamentalement. » Et là, on attend dans les 6 mois qui viennent des décisions fortes. Et si ça ne se fait pas, là, ce sera autre chose.
Vous souhaitez commenter, Roulage, ça va, et après ça, on va parler géopolitique à plus proche.
Oui, une dernière chose sur la campagne de Rouhani. Il a essayé de mettre en avant les minorités. Et un peu, peut-être, d'après certains observateurs, un peu trop. Dans ces vidéos documentaires que chaque candidat en Iran diffuse deux vidéos d'une demi-heure à peu près, il a mis en avant les minorités ethniques, mais pas seulement les femmes. Il a beaucoup concentré sur les questions des femmes, l'écologie, la jeunesse. Et il s'est présenté comme le candidat de toutes les minorités et les minorités politiques aussi. Et il a dit clairement, si vous voulez tout cela, et surtout si vous voulez la libération de Mousavi et Karoubi, il faut que vous votiez dès le premier tour, massivement, pour moi, pour que je puisse imposer vos idées. Et ça a marché. Et c'est une des raisons pour laquelle qu'on a vu qu'il est gagné dès le premier tour.
Alors, politique étrangère, le contexte régional, je l'ai dit en introduction, la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, et on voit le président américain durcir le ton à l'égard de l'Iran. Finalement, Hassan Rouhani peut être un facteur d'apaisement, Bernard Orcan, dans le contexte actuel?
Il est certain que dans le Moyen-Orient, on constate que l'Iran est un pays où les élections marchent tous les 4 ans, on change de régime ou de gouvernement sans qu'il y ait des guerres ou des conflits ou des coups d'État, l'économie marche bien, les trains partent à l'heure, l'électricité allume les lampes et l'eau coule au robinet. Donc cette stabilité politique en Iran est un atout très important au point de vue international. Et donc quand on cherche pour trouver les solutions à la crise en Irak, au Yémen, en Syrie ou ailleurs, qui peut être un élément stable? La Turquie, qui est un État, malgré ce qui s'y passe, qui est stable, et l'Iran. Or, jusqu'à maintenant, on dit l'Iran ne compte pas. On refuse que l'Iran soit autour de la table. L'Iran est un facteur de trouble. Et on voit, d'après le discours de Trump, que le terrorisme international, ce n'est pas Manchester, c'est l'Iran. Bon, des vérités alternatives, comme on dit. Donc, cette outrance américaine place encore plus l'Iran dans une position calme de pays qui dit « Je ne tiens pas à coloniser Alep ou à prendre le pouvoir en Syrie ou ailleurs. Je veux simplement la stabilité de la région et qu'on me laisse tranquille chez moi en République islamique. » Les Iraniens sont nationalistes. Hyper nationaliste, excessivement nationaliste. Et donc, ils cherchent évidemment à protéger leurs intérêts territoriaux. Ils vont certainement beaucoup trop loin dans ce sens-là en envoyant des troupes un peu à l'extérieur, mais ça, c'est le résultat de l'histoire. L'exacerbation des tensions aujourd'hui avec Trump qui arrive, qui caricature la situation. Et de l'autre côté, le calme iranien permettra peut-être de rééquilibrer les choses. Et donc, paradoxalement, je pense que le discours excessif de Trump est une bonne chose, parce que ça montre que ça ne tient pas la route et qu'il faut donc faire quelque chose. Et on attend, je crois, et c'est ça le point important, qui peut faire quelque chose? C'est la France. La France qui vient de changer de gouvernement, qui change de nouvelle politique, qui est au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a un rôle essentiel en Syrie, par la tradition. Donc la France a la capacité politique, est-ce qu'elle en a la volonté, on n'en sait rien, les moyens, de prendre des initiatives pour arrêter cette boucherie qu'il y a au Moyen-Orient. Et ma foi, les élections iraniennes sont un élément de stabilisation, de modération à la Macron. C'est ni l'un ni l'autre, c'est pour le guide, c'est pas contre le guide, mais c'est pas exactement avec lui. Et il y aurait moyen peut-être de faire quelque chose. C'est un rêve utopique, mais pourquoi pas.
Roulage, ça va?
Moi, je pense que, au contraire, ce que on entend par certains experts, entre parenthèses, et les diplomates et les journalistes, un apaisement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans la région est possible. Et on a vu ça pendant la présidence de Mohammad Khatami. On a vu un rapprochement sans précédent de l'Iran et l'Arabie Saoudite. Hashemi Rafsanjani a joué un rôle très important. Et il y a des forces à l'intérieur des deux régimes pour cet apaisement. Moi, je pense que ce sont des éléments extérieurs qui empêchent cet apaisement, ce rapprochement, à savoir aujourd'hui Donald Trump fait un rôle vraiment dans l'ingérence de la région avec son intervention. Il s'est réuni 50 chefs d'État qui n'a pas vraiment une démocratie. J'ai vu un journaliste américain qui a tweeté que en même temps que Donald Trump a réuni 50 chefs d'État dictateurs, il y a dans la même jour une élection présidentielle présidentielle en Iran.
Oui, mais oui, pourtant, c'était un hasard de calendrier qui n'avait rien du hasard, probablement.
Oui, tout à fait. Et là, je pense que malgré ce qu'on pense, s'il y a des bons médiateurs légitimes, je sais en même temps, en Iran, je sais qu'il y en a, je pense qu'en Arabie Saoudite, ça existe aussi, que un rapprochement, ça n'efface pas les différentes compétitions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais je pense qu'ils veulent pas aller jusqu'à une confrontation violente.
Alors en tout cas, on voit Bernard Ourcade, les États-Unis et Riyad signer un accord notamment d'armement pour 380 milliards de dollars. Il y a de quoi tout de même inquiété, c'est-à-dire qu'on voit une sorte de front guerrier se constituer à nouveau là où sous Obama les choses avaient davantage tendance à une certaine, en tout cas, volonté d'accalmie.
Oui, tout à fait. Le surarmement saoudien ou des Émirats, ils ont des armements mais pas d'armée en quelque sorte. Ils ont des avions chasseurs-bombardiers très nombreux, mais il faut des pilotes derrière. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est caricatural. Et cette caricature justement est tellement outrancière aujourd'hui qu'elle peut amener à un retour un peu à la raison. Et comme il vient d'être dit, Iran et Arabie Saoudite ont longtemps été assez rapprochés. Ce sont deux pays, on dit sunnite chiite, c'est un facteur, mais il y a mille facteurs qui opposent ces pays. Donc de vouloir exagérer...
En plus, c'est une invention médiatique. Chiite, sunnite...
Ils ont toujours existé, ça fait 1400 ans que sunnite et chiite sont face à face. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est ça le phénomène. Des Persans et des Arabes, ça a toujours existé. Les Persans et les Arabes ne sont jamais fait la guerre depuis que seulement l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Sauf avec l'Irak, mais c'est très récent. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il y a dans les deux camps des gens qui sont rationnels et qui disent: nous sommes là encore pour 3000 ans de chaque côté du golfe Persique. Jamais l'un ne va dominer l'autre. C'est une évidence géopolitique. Donc, trouvons un pacte de stabilité. Un pacte. Et même en France, j'ai vu une note des centres de recherche d'école militaire disant: est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'il y ait effectivement un pacte de non-agression, un espèce de pacte comme l'Union de la Sécurité Européenne, l'OSCE, entre les deux rives du golfe Persique pour la stabilité de la région et éviter que les deux grandes puissances qui montent ne se fassent la guerre en Syrie, en Irak, au Baloutchistan ou ailleurs? On peut avoir cette idée-là aujourd'hui, sachant qu'il y a en Arabie un mouvement social qui naît également comme en Iran, avec beaucoup de retard. Et donc, les rois, les Saouds, savent très bien que Daesh est une menace pour eux. Et donc, ils ont intérêt des deux côtés à baisser la tension. Et les exagérations de Trump peuvent peut-être paradoxalement aider à cela.
Donc vous n'êtes pas, finalement, pour résumer, et l'émission ne fait que 20 minutes aujourd'hui, malheureusement, on expliquera plus tard pourquoi, mais finalement, vous n'êtes pas si inquiet l'un et l'autre dans ce débat sur l'Iran, et eu égard à la réorientation, finalement, de la politique américaine aujourd'hui, relâche à Savard.
Avant l'élection, j'étais inquiet si Raisi, avec sa position quasiment idéologique, arrive au pouvoir, mais les Iraniens, les électeurs sont tranchés et ils ont choisi une ligne de la paix. Mais moi, je suis plutôt inquiet côté saoudien et côté américain parce que on voit que ils jouent sur cette
fibre
confrontation entre les deux pays pour signer des gros contrats. Et c'est ça sur lequel je suis vraiment inquiet. Mais encore, je pense que finalement, on peut pas être sûr à 100%, mais finalement, il n'y a pas vraiment dans l'intérêt de aucun des deux pays, sauf s'il y a un fou qui arrive au pouvoir, qui déclenche une guerre, et après on peut pas arrêter. On a vu avec Saddam Hussein, on a eu 8 ans de guerre en Iran, et voilà.
Bernard Ourcade, en guise de conclusion, un rajout très court.
Oui, je crois qu'effectivement, tout est possible dans la région, mais actuellement, l'Iran est le premier pays qui sort de l'islam politique, il y a une maturité politique, et ça, c'est un pôle de stabilité important, même s'il y a beaucoup de questions qui se posent.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Bernard Ourcade, qui est directeur de recherche au CNRS et auteur de La géopolitique de l'Iran, paru chez Armand Collin. Et Rouhollah Chassavar, journaliste iranien, fondateur et directeur des Lettres persanes. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Et rendez-vous maintenant avec le football pour la finale de la Coupe de France qui oppose le Paris Saint-Germain à Angers. Très bonne écoute sur RFI.